France Inter.
Victor Delande, bonjour Victor.
Bonjour à tous.
À la une ce matin, les élections américaines approchent et les deux camps s'écharpent sur les règles de vote.
Des règles électorales qui, dans certains États, pourraient avantager Donald Trump. Reportage dès le début de ce journal en Géorgie. Dans l'actualité également ce matin, Emmanuel Macron promet de s'engager davantage dans la campagne des européennes. Les Français de confession juive ne se sentent plus en sécurité, selon un dernier sondage. Et puis, du rugby cet après-midi avec la demi-finale de Coupe d'Europe pour le Stade Toulousain.
Les invités de France Inter ce matin à 7h50, rien moins que la plus grande artiste contemporaine française, la plasticienne Annette Messager, nous fait le plaisir d'être avec nous. Et à 8h20, autour d'un café, d'un thé, avec ou sans sucre, avec ou sans croissant, on vous raconte l'étonnante histoire du petit déjeuner avec le géo-historien Christian Grattalou qui publie un livre sur le sujet. Vos questions, vos témoignages aussi, 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter.
France Inter. Nous sommes à 6 mois jour pour jour de l'élection présidentielle américaine. Le camp démocrate est en campagne en Géorgie. Dans cet état du Sud, très conservateur, Joe Biden avait créé la surprise en 2020 en devançant sur le fil Donald Trump. Mais depuis, les républicains au pouvoir dans cet état ont modifié les lois électorales. Ces nouvelles règles, officiellement censées protéger le scrutin contre d'éventuelles fraudes, semblent bâties pour compliquer la tâche des électeurs, des minorités qui votent majoritairement démocrates. Reportage à Savannah de Julie Pietri et Hélène Langlois.
Patty Hewitt, démocrate, est en campagne à Savannah.
Je suis une opposante à un état antidémocratique.
Cette femme vise un poste au Congrès, soutient Joe Biden et n'encaisse pas les nouvelles règles imposées ici par les républicains.
L'idée, c'est vraiment de rendre le vote plus compliqué.
Exemple de mesure, la limitation des drop boxes, ces boîtes scellées dans lesquelles les électeurs peuvent déposer leur bulletin avant le jour du scrutin. Il faut désormais faire plus de routes pour les trouver en Géorgie et elles sont accessibles à des horaires plus restreints.
Imaginons, vous n'avez pas de voiture, vous ne conduisez pas. Comment vous y allez? Comment les gens qui cumulent 2 ou 3 emplois vont aller voter dans ces circonstances?
Michael Hodge est professeur de sociologie à Atlanta.
Ça impacte tout le monde, mais surtout les gens qui travaillent tous les jours et qui ne peuvent pas poser une journée pour aller voter et patienter des heures. Ils perdent de l'argent. Ça concerne surtout les communautés noires et les non-blancs, les communautés qui ont moins de ressources. Je pense, oui, que cette législation a été conçue pour empêcher un groupe d'électeurs en particulier d'aller voter démocrate.
Ces électrices se sont senties visées. Oh oui, je vais aller voter. J'ai été très choquée. Ce que je sais, c'est que Biden sera notre président.
À Tel Aviv hier, des milliers d'Israéliens ont manifesté pour un cessez-le-feu à Gaza et pour le retour des otages 7 mois après le début de la guerre. Pendant ce temps-là, un accord de trêve entre Israël et le Hamas est bien sur la table au Caire, mais les discussions semblent au point mort.
Et Emmanuel Macron condamne avec la plus grande fermeté le blocage de Sciences Po et des universités par des manifestants pro-palestiniens.
Dans une interview fleuve accordée aujourd'hui au journal La Tribune Dimanche, le chef de l'État se dit même favorable aux évacuations de ces universités par les forces de l'ordre. La proportionnelle aux élections législatives, la réforme des retraites ou encore les élections européennes, tous ces sujets sont abordés dans cet entretien. Sur le scrutin du 9 juin prochain, les sondages sont toujours mauvais pour le camp présidentiel. Emmanuel Macron cherche donc à minimiser les conséquences d'une potentielle défaite face au Rassemblement national, Marie Mollet.
Oui, Emmanuel Macron s'impliquera dans la campagne et il demande à son Premier ministre d'en faire autant dans cette interview. Mais non, il ne tirera pas de conclusion nationale du scrutin qui est d'abord européen, dit-il, alors que le RN demande déjà une dissolution en cas de victoire au soir du 9 juin. Le chef de l'État préfère enjamber et parler du temps qui reste avant 2027. « J'ai tant de choses à faire, dit-il, sur la réindustrialisation, l'école ou l'écologie. Non, il n'est pas empêché par sa majorité relative, jure le chef de l'État. Et si une motion de censure devait être adoptée, il ne sait pas s'il dissoudra, cela dépendra des circonstances, dit-il à la Tribune Dimanche. Aurait-il aimé être candidat pour un 3e mandat? Je ne sais pas, dit-il, mais il regrette que la Constitution l'interdise, il ne la changera pas. Mais l'une de ses responsabilités sera de garder l'unité de ce bloc central né en 2017, dit-il, alors que la bataille pour sa succession se prépare déjà à bas bruit et que son camp patiente en attendant le début de l'après-Macron.
Marie Mollet du service politique de France Inter. Emmanuel Macron reçoit Xi Jinping. Le président chinois arrive aujourd'hui en France. Soyons clairs, je ne propose pas de nous écarter de la Chine, prévient d'emblée le président de la République dans les colonnes de la Tribune Dimanche. Je pense toutefois que l'on doit être beaucoup plus réaliste dans la défense de nos intérêts, dit-il. Les juifs français sont plus victimes d'antisémitisme qu'avant, c'est ce que révèle une enquête réalisée par l'IFOP pour l'antenne française de l'American Jewish Committee. Depuis l'attaque du Hamas contre Israël, les actes antisémites et antisionistes se sont banalisés en France. Et depuis le 7 octobre, les Français de confession juive ne se sentent plus en sécurité, Juliette Gloria.
D'après cette enquête, l'écrasante majorité des Français juifs vit dans la peur depuis maintenant 7 mois. Moqueries, insultes, agressions physiques, 86% d'entre eux affirment craindre davantage d'être victimes d'agressions antisémites depuis le 7 octobre. Alors pour se protéger, beaucoup décident de modifier leur comportement. Par exemple, la moitié a arrêté de porter des signes religieux dans les espaces publics. Au niveau de leurs déplacements aussi, un tiers prend moins, voire plus du tout le taxi. 20% ont retiré leur mezouza, ce petit rouleau avec des passages bibliques que les juifs accrochent à la porte de leur maison, et ils sont autant à prendre des précautions sur Internet, notamment en utilisant des boucles de messagerie privées. 18% vont même jusqu'à modifier leur nom de famille sur les applications de livraison comme Deliveroo ou Amazon. Enfin, ils sont aussi très prudents sur les réseaux sociaux qu'ils considèrent comme dangereux pour 54% des juifs français, notamment à cause de l'augmentation des contenus antisémites depuis le 7 octobre.
7h06 sur France Inter, une idée maintenant, et si on taquinait le goujon dans la Seine ?
Oui, prenez vos plus beaux hameçons à Lille-Marion, je vous propose un peu de pêche en ville. Cette pratique a un nom, le street fishing, ça existe depuis le début des années 2000. Et depuis le confinement, on compte de plus en plus d'amateurs pour ce type de pêche. Reportage à Paris de François Ventéjou.
Au bord du canal Saint-Martin, Yanis enchaîne les lancers. Il est à la recherche de brochets, mais après une demi-heure,
je crois que c'est une algue.
Toujours rien au bout du fil.
Oh, la prochaine fois peut-être.
Pour ce Parisien de 20 ans, la pêche, c'est une passion récente.
Fait un an globalement, je me suis mis en regardant les gens pêcher. Je me suis toujours intéressé, je les regardais de loin. Puis je me suis dit que j'allais acheter mon matos, c'est commencé quoi. Ça permet de bouger un peu, bon, on se dirait pas comme ça, mais ça dépend du type de pêche. Là, en pêchant les prédateurs, ça permet de bouger, parce qu'on fait que marcher, etc.
Canne à pêche, hameçon, leurre, tout rentre dans un sac à dos, c'est le côté pratique du street fishing. Bill François fait partie de l'Union des pêcheurs de Paris.
On peut, avec du matériel très léger, aller pêcher une heure, et puis ensuite aller retrouver des potes au cinéma ou en terrasse.
Ça séduit de plus en plus les jeunes citadins, surtout depuis la période Covid.
Les trois dernières années, on a observé plus de 17% d'augmentation du nombre de pêcheurs. On est à peu près à 9000 passionnés qui ont chacun une carte de pêche, donc qui sont membres d'une association de pêche et de protection du milieu aquatique.
Pour eux donc, pas question de tuer les poissons.
Le street fishing à Paris, c'est le no-kill, donc c'est on observe le poisson, on le respecte et on le remet à l'eau immédiatement.
Dans la Seine, il existe une quarantaine d'espèces différentes, dont des silures, ce poisson-chat qui peut dépasser les 2 mètres de long.
Autre sport, Victor, sans canne à pêche, mais avec des crampons.
Auxerre, qui a un pied et 4 orteils en Ligue 1, après sa victoire 2-0 hier soir contre le Paris FC, les Bourguignons ont 6 points d'avance sur le 3e Angers et une différence de but très confortable. En rugby, très belle affiche de Coupe d'Europe cet après-midi, demi-finale entre Toulouse et les Anglais des Harlequins à 16h. Après 2 années d'échecs à ce stade de la compétition, le demi d'ouverture du stade toulousain Antoine Dupont ne pense qu'à la victoire.
C'est toujours beaucoup de plaisir, d'excitation de rentrer dans ce dernier carré, beaucoup de fierté aussi, ça récompense le travail qu'on fait tout au long de la saison, mais si on s'arrête là, ça aura servi à rien, donc on est prévenu aussi, on s'est arrêté plusieurs fois à ce stade-là de la compétition, on sait la déception que ça représente, on sait que cette année on s'est mis dans les meilleures conditions en temps moyen de recevoir cette demi, donc on espère vraiment passer un cap de plus, mais c'est toujours un plaisir d'être à ce niveau-là de la compétition.
Antoine Dupont au micro de Fanny Le Chevestrier, coup d'envoi de cette rencontre Toulouse Harlequin, ce sera à 16h.
C'était le journal de Victor Dolande. À suivre, Zoom sur ce monde du théâtre inquiet face aux coupes budgétaires à la veille de la cérémonie des Molières.